RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et bienvenue dans la seconde partie de Je pense, donc j'agis. Nous continuons d'inventer un monde plus juste et durable à travers des propositions formulées par des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, sont impliquées dans l'invention du monde de demain. Et ces invités sont tous déjà venus dans Je pense, donc j'agis. Ils ont accepté de revenir aujourd'hui pour nous aider à penser concrètement l'avenir. Et nous les en remercions. Alors après François Mandil, en première heure, on va accueillir notre deuxième fil rouge dans quelques minutes. C'est Adrien Louandre, que vous connaissez bien sur RCF, puisqu'il est chroniqueur. C'est un habitué de l'émission Je pense donc j'agis. Et puis je rappelle que ce monde de demain, on l'imagine aussi avec vous toutes et tous. Pour participer, vous nous appelez au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23, on accueillera Ingeborg et Francine dans quelques minutes. Vos messages par mail à direct@rcf.fr.
Jusqu'à 11h, Je pense donc j'agis sur RCF.
Et toujours avec vous Anne Kerléo, on continue.
Oui, on accueille une nouvelle intervenante. Bonjour à vous Estella Torres.
Bonjour Anne.
Alors, je ne sais pas si vous étiez déjà venu dans Je pense donc j'agis, mais en tout cas vous êtes déjà venu notamment dans l'émission Comme une planète. Donc les auditeurs connaissent peut-être déjà votre voix. Vous êtes l'une des responsables de la Fraternité pour le respect animal, une association catholique qui agit donc pour le respect des animaux et puis pour leur donner une voix et une présence aussi au sein de l'Église et de la société. Et par ailleurs, vous êtes peintre et le petit accent qu'on va entendre tout à l'heure nous vient du Mexique, mais vous vivez en France depuis longtemps, depuis 2001, c'est ça?
C'est bien ça.
Alors, quelle est votre proposition pour inventer un monde plus juste et plus durable ce matin?
Oui, justement, c'est une façon de réinventer le monde plus juste, durable et en paix. C'est notre proposition, de la part de la phrase, c'est de repenser justement notre relation aux animaux. Revoir notre façon de les traiter, notre mode de consommation, revoir leur place dans le dessein des dieux, réfléchir à notre place comme créature responsable. Et aussi, nous demandons, je pense, plus de prise de conscience et c'est surtout de la réflexion. Du côté de la FRA, nous pouvons dire aussi que tout n'est pas perdu, il y a de l'espoir, parce que nous constatons qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent cette conscience comme qui voient les animaux, qui commencent à changer leur regard. Et il y a aussi cette conversion de regard envers les animaux comme des créatures des dieux. C'est vraiment réfléchir à ce que cela veut dire que les animaux sont des créatures des dieux. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous acceptons, nous croyons que les animaux sont des créatures des dieux? Alors, comment répondre à cette place, à ce statut des animaux? Et tout n'est pas perdu, comme je dis, parce que une des propositions que nous sommes en train de mettre en place, parce qu'il y a eu une demande des personnes qui voulaient se rassembler en groupe, justement pour prier pour le monde, pour les humains qui souffrent et pour les animaux. C'est très important. C'est notre message, c'est surtout l'inclusion des animaux dans nos prières, dans nos réflexion en tant que chrétien, nous avons des raisons, au-delà de la cause animale ou des véganismes ou des antispécismes, les chrétiens ont des raisons, basées sur leur foi pour, prendre soin et se sentir concernés par les animaux.
Justement, quelles sont ces raisons? Parce que c'est vrai que dans une lecture très, peut-être littérale de la Genèse et puis aussi en ne lisant qu'une partie du texte, on a pu vraiment se focaliser sur cette fameuse phrase « soumettez la terre » et du coup sur une vision très anthropocentrée et qui considère vraiment que l'homme est le maître quelque part par délégation de la création. Je ne sais pas si c'est très orthodoxe ce que je viens de dire, mais en gros c'est un peu ça. Qu'est-ce qui, dans les ressources de la tradition chrétienne, dans la Bible aussi, nous permet de penser les choses autrement?
Oui, ça c'est surtout dû à des interprétations et des malentendus, parce que juste après la phrase sur la domination, c'est Dieu qui donne aux animaux et aux humains un régime végétarien. Ça veut dire que la domination n'est pas tyrannique, n'est pas on peut tout faire, c'est vraiment il y a des limites. Et cette domination, c'est aujourd'hui c'est plus compris comme une responsabilité. Des limites de l'homme face aux animaux, il y a toute la création.
Pour vous, qui depuis longtemps avez pris conscience de ça, qui au début avez un peu crié dans le désert, et aujourd'hui vous dites que ça va mieux, les gens commencent à s'alerter, qu'est-ce que ça change pour vous dans votre manière d'être au monde, dans votre appréhension du monde? Est-ce que finalement, revisiter, repenser cette relation à tout le vivant et en particulier aux animaux, c'est quelque chose qui est contraignant, ou au contraire, est-ce que finalement ça ouvre à une vie qui est plus belle, quoi? Vous, personnellement, comment vous vivez ça?
Oui, c'est les deux. Parce que d'un côté, c'est vrai que on a un grand chemin devant nous. Il y a une pensée vraiment comme très ancrée, comme une programmation de voir les animaux comme inférieurs et comme s'ils s'étaient créés pour servir les êtres humains. Mais c'est un peu être en milieu dans une transition et un changement de cette vision vers une autre vision qui s'ouvre, qui effectivement. Et si tout est lié, nous pouvons pas oublier les animaux. Il faut les inclure même dans l'écologie intégrale. Écouter la clameur des pauvres, la clameur de la terre et la clameur des animaux. C'est aussi notre proposition.
Et quand on fait ça, qu'est-ce que ça change dans la vie, en fait? Personnel.
Personnel, c'est que moi je pense que je sens que on est, si on se laisse, si on se centre, si on réfléchit vraiment on revient à l'essentiel par rapport à l'image que nous avons ou la relation que nous avons avec Dieu, d'un Dieu d'amour, et si nous nous laissons envahir par ce Dieu d'amour, ça répond et ça va, c'est on se sent en cohérence, on se sent vraiment aligné avec cet amour des dieux qui s'étend à toute la création. C'est la création, c'est pour Dieu, et Dieu il vit pour la création, c'est mutuel. Et quelque chose aussi qui est par rapport à qui j'aimerais mettre l'accent, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. C'est inclure les animaux au cercle des compassions, n'exclut pas les humains. C'est plus une invitation à avoir une vision beaucoup plus globale et pas dualiste, comme si on devait choisir entre les humains et les animaux. Si on s'occupe des animaux, si on s'intéresse aux animaux, ça fait partie de notre foi chrétienne. Il faut réfléchir aussi à ce lien. Et ça enlève en rien la place, on remplace pas les humains, c'est vraiment, on peut, l'amour des dieux est infini et il est pas limité, on peut pas limiter l'amour des dieux juste aux êtres humains. Et ça, c'est parce qu'on a encore beaucoup de réflexions, des gens qui ont peur ou sont que les animaux sont comme une menace ou une rivalité, comme si on s'occupait des animaux, on allait plus s'occuper ou moins bien s'occuper des humains.
Et pour entrer dans ce chemin-là, on peut peut-être aller s'inspirer du côté de Saint François d'Assise, pour commencer.
Voilà, de Saint François d'Assise et de tous les saints qui ont vraiment eu une relation étroite avec les animaux. C'est tous les saints, ce sont des exemples à imiter, à suivre, à s'inspirer, exactement.
Dans quelques minutes, nous rejoindra Adrien Louandre, notre fil rouge, jusqu'à 11h, le temps d'accueillir Ingeborg qui nous attend au 04 72 38 20 23. Bonjour Ingeborg.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Je suis très touchée par ce qui vient d'être dit, et effectivement, je pense que si on regarde les animaux et même les plantes comme nos amis, et non pas comme une source de revenus ou un ennemi ou quelque chose qui dérange ou qui est à notre service, ça fait un gros changement dans nos actions. Mais bon, j'appelais pour un autre volet. J'encourage tout le monde qui n'est pas élu politiquement, d'aller dans toutes les instances démocratiques qui sont proposées justement par notre système démocratique en France, c'est-à-dire dans les quartiers, dans les conseils de quartier, quand on est dans une ville qui a des conseils de quartier, dans les conseils de développement qui sont proposés par les intercommunalités, et puis bien sûr dans toutes les associations qui luttent pour la défense du climat et de l'environnement.
Oui.
Et puis d'aller aussi, quand il y a par exemple une révision du plan local d'urbanisme, d'aller dans les réunions de concertation, d'écrire pour l'enquête publique, etc.
Donc l'action citoyenne, la participation citoyenne également, Ingeborg, aux différentes prises de décision, que ce soit dans les villages ou dans les villes, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui.
Voilà.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Ingeborg de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23.
Estella Torres, justement, pour rebondir sur ce que disait Ingeborg à l'instant, est-ce que ce que vous nous avez dit avant sur renouveler finalement notre lien aux animaux implique que cette dimension-là soit examinée à chaque fois qu'on prend une décision publique, c'est-à-dire comme on invite aujourd'hui à le faire pour le climat, c'est-à-dire que s'assurer que pour toute décision qui est prise, ça ne génère pas de nouvelles émissions de gaz à effet de serre, ben, est-ce qu'il faut aussi intégrer la question de la biodiversité et des animaux aux décisions que l'on prend et qui peuvent être parfois dont on ne voit pas le rapport immédiat avec les animaux?
Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça, et c'est surtout par rapport à l'élevage industriel, on voit comment l'élevage industriel a des impacts négatifs, mais pas seulement sur les animaux, mais surtout de la planète pour les humains. Et c'est vrai que on pense moins aux animaux quand on réfléchit, quand on parle de l'élevage intensif, mais ils sont impliqués partout, hein. L'exploitation. Des animaux, c'est partout. Et oui, je pense qu'il faudrait bien les prendre en compte.
Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui vous écoute ce matin et qui se dit, bah, peut-être que moi, je pourrais m'engager de ce côté-là, mais j'ai besoin de comprendre comment faire pour commencer à s'informer sur le sujet, à entrer petit à petit dans le sujet?
Oui, déjà, à la base, c'est plus une réflexion par rapport à notre relation à Dieu. Et commencer à examiner, à explorer le lien qui existe entre justement notre foi chrétienne et le souci des animaux. Et réfléchir aussi à qu'est-ce que cela veut dire que les animaux sont créatures des dieux et on doit les traiter comme tels.
Et ça y est, on a le grand plaisir d'accueillir notre deuxième fil rouge pour cette émission, notre deuxième chroniqueur également qu'on a l'habitude d'entendre dans Je pense donc j'agis, en direct d'une gare. Alors pardonnez-nous à l'avance pour le son qui peut être un
c'était
petit
pas
peu,
prévu comme ça.
Instable en transit, Adrien. Bonjour Adrien Louandre.
Bonjour Anne, bonjour Melchior, c'est les joies du direct.
Bah exactement, merci de nous accompagner jusqu'à 11h. Je vais vous poser la même question qu'à François oui. Tout à l'heure. À votre avis, faire ce qu'on fait ce matin pendant 2 heures, voilà, rêver l'avenir, inventer le monde de demain, partager des beaux projets, c'est utile pour vous Adrien?
T'imagines? Non. Non, bien sûr que c'est utile. Non, bien sûr que c'est utile. On a besoin de rêver, de penser à un autre monde. En fait, si on est pris dans un système et qu'on n'arrive pas à penser différemment, c'est le bonheur de la littérature, par exemple, ou du cinéma, on peut pas s'en sortir. Donc, si on pense pas, là, j'entendais votre invité qui parlait de penser les relations animales ou l'élevage différemment, si on ne le pense pas, on s'en sort pas. Tout vient d'une pensée. Donc oui, c'est extrêmement utile.
Justement, Adrien, sur cette question du lien aux animaux, vous, comment ça vous parle? Je ne sais pas à partir de quand vous avez entendu Estella, mais en tout cas, cette question-là, elle vous paraît importante pour chacun de nous aujourd'hui?
Vous connaissez, chère Anne, mon côté franciscain, donc bien sûr, elle est très importante. Et d'ailleurs, le pape François, et c'est, je pense, un point incroyable de sa théologie, il parle d'étendre le chemin du prochain, finalement, aux animaux. Finalement, c'est ça, Laudato si. Et donc, évidemment, ça me parle beaucoup. Et tout ce qu'il appelle la révolution de la tendresse, elle se fait aussi par et à travers les animaux. Par contre, là où c'est un petit peu compliqué, c'est qu'en réalité, vous savez, si vous avez des enfants en bas âge, bah, ce qu'on apprend à vos enfants, c'est en réalité un petit peu du folklore. Et c'est quand même ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand on dit l'éléphant, le taureau, la girafe, bah, tout ça, il en reste très très peu et ça implique une révolte, mais quelque chose à, où il faut agir en tout cas.
Mais justement, comment on fait ? Parce que ce que vous dites là, enfin étendre, je ne sais plus comment vous avez formulé, mais nos relations, notre fraternité aux animaux, dit comme, enfin on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Moi, j'ai l'habitude des relations avec les autres humains qui me ressemblent un peu plus que les animaux. Comment je fais concrètement pour aller dans ce chemin-là, quoi ?
Alors oui, c'est vrai qu'un humain n'égale pas un singe, n'égale pas un moustique, n'égale pas un poisson, ça on est d'accord, mais sans être antispéciste, il y a quand même quelque chose à faire. Je pense que la toute première chose, on revient hein, sur cette idée de pensée. Tout est issu de notre pensée, et notre pensée occidentale est cartésienne. Bon, je ne cache pas une certaine aversion pour Descartes, à part le « je pense, donc je suis », le reste. Il faut que c'est commencer par sortir de cette pensée cartésienne et de se dire que non, le chien et le chat, c'est facile, mais tous les autres animaux aussi, et même la mouche, ne sont pas des objets et sont des êtres vivants doués de sensibilité.
Estella Torres, une réaction là-dessus ? C'est vrai que ça paraît pas forcément évident, on est tellement habitué à être concentré sur les relations entre nous les humains. Alors, il y a une expression qu'on emploie beaucoup aujourd'hui qui est, alors peut-être encore dans des milieux un peu confidentiels, mais relation à tout le vivant. Comment on emprunte ce chemin-là concrètement ? Ça peut paraître compliqué et pas du tout balisé dans nos habitudes, quoi.
Oui, c'est plus comme une vision plus large. C'est pas nécessairement parce que les autres animaux sont différents. Indépendamment de que ce soit différent ou similaire, ils ont quand même une valeur, encore une fois, comme des créatures des dieux. C'est pas à nous de décider comment. C'est plus de respecter cette place des créatures.
Et est-ce que, on est quand même nombreux à avoir l'expérience d'avoir un animal domestique, un chat, un chien, peut-être des oiseaux, des poissons. Est-ce que cette expérience-là, de lien parfois très très fort avec un animal, peut nous donner un peu un mode d'emploi pour un chemin à inventer ?
Bien sûr. Oui, je crois. Des fois, c'est par là que ça commence ce chemin des conversions, des regards. C'est avec justement un lien fort avec un animal de compagnie. Après, on étend c'est aussi par l'émerveillement, c'est ce contact au-delà de la réflexion, c'est vraiment nous laisser envahir par l'amour et par l'émerveillement. Et pour moi, les relations que j'ai eues avec mes animaux tout au long de ma vie, je priais Dieu, c'était complètement lié, c'est un amour qui me vient des dieux qui s'étend par à la création.
On a Pierre, justement, un auditeur qui voudrait réagir autour de ce sujet. Pierre qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Voilà. Je ne sais pas si la dame vous a lu la citation que je lui ai dite.
Non, on n'a rien dit à l'antenne, donc allez-y.
Voilà. Donc, je vous lis une citation. Tant que l'homme continuera à être le destructeur impitoyable des êtres animés des plans inférieurs, il ne connaîtra ni la santé ni la paix. Tant que les hommes massacreront les bêtes, ils s'entretueront. Celui qui sème le meurtre et la douleur ne peut en effet récolter la joie et l'amour. Est-ce que vous savez qui avait dit ça ?
C'est Pythagore.
Oui, Pythagore, 500 ans
avant. Vous avez triché, Melchior.
Il n'a pas fait des triangles.
Alors, quand on parle, il y a 2 milliards d'animaux élevés en batterie dans le monde. Vous voyez dans quelles conditions ces pauvres bêtes sont élevées. Ouais.
Eh bien, Pierre, merci beaucoup pour cette belle citation, citée à l'antenne à l'instant. Estella Torres, vous voulez réagir ? Ouais. Vous la connaissiez, cette citation ?
Oui, merci beaucoup. Il y a des citations similaires, mais c'est tout à fait ça. Merci beaucoup, Pierre, pour votre partage. Moi, j'avais justement amené une citation, mais c'est d'Albert Schweitzer, qui dit pareil, c'est que tant que nous n'aurons pas étendu notre cercle de compassion à tous les êtres vivants, l'humanité ne trouvera pas la paix. Et la compassion dans laquelle toute éthique doit s'enraciner ne peut atteindre toute son ampleur et sa profondeur que si elle englobe toutes les créatures vivantes et ne se limite pas à l'être humain. Du coup, on est tout à fait d'accord avec... Et c'est vraiment aller aux racines de notre ouais. violence aussi, parce que c'est les animaux, ils sont à la merci de notre bienveillance et malveillance. Ils sont à notre merci. Du coup, qu'est-ce que ça dit de nous, les êtres humains? Qu'est-ce que ça dit de nous par rapport à notre relation à Dieu?
Adrien Louandre, vous êtes un expert de Pythagore, vous la connaissiez cette citation, vous aussi?
Alors, je connaissais cette citation sans être expert de Pythagore, quoique je dois avoir le théorème, je pense. Je ne vais pas le dire à l'antenne, parce que si je me trompe, j'aurai la bête. Malheureusement, je crois que la personne qui est intervenue a tort, ce n'est pas 2 milliards d'aliments en batterie. Moi, j'ai au moins 60 milliards, même pour les poulets. Donc, à mon avis, c'est plus que ça. Mais je rejoins complètement ce qui a été dit. C'est vrai que si on n'a pas une relation différente aux animaux, notre relation à nous-mêmes vont changer. Par contre, là où je voudrais intervenir, c'est que c'est pas pour ça qu'il faut condamner, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, des agriculteurs ou des ruraux qui effectivement font ça, mais il faut bien qu'ils mangent déjà pour commencer, et c'est aussi systémique. Il faut savoir que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a des tickets de rationnement jusqu'en 1949, il faut bien manger. Et vous n'allez pas dire aux gens, vous avez déjà souffert pendant des années, il ne faut pas manger. Donc on a relancé la révolution mécanique en France et on était obligé d'être dans ce système-là. Et ce système-là a permis de nourrir la France. Maintenant, la question, c'est comment on s'en sort et comment, par une élévation des consciences individuelles, on arrive à effectivement avoir un autre lien avec le reste de la nature.
Il est 10h21 sur RCF, émission spéciale de 2h. Vous l'entendez, pour inventer le monde de demain. On reçoit de nombreux invités. On a également Adrien Louandre qui est notre fil rouge. Vous pouvez faire comme Ingeborg et puis Francine également, qu'on accueillera dans quelques minutes. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour vous aussi partager vos idées concrètes pour changer le monde. Et puis dites-nous si vous avez déjà mis en œuvre des projets en ce sens. 04 72 38 20, 23. Adrien Louandre, vous n'allez pas échapper à cette question. Et vous alors, est-ce que vous avez une idée, une proposition pour changer le monde, ou en tout cas pour essayer d'imaginer le monde de demain?
Est-ce que vraiment c'est une question piège? Non.
Non, pas du tout.
non, bien sûr. Après, c'est mon rôle, moi en tant qu'écrivain et auteur, la première chose, c'est ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure, c'est de se dire, commencer à imaginer, commencer à dire qu'un autre monde est possible. Puisque, par exemple, j'en sais rien, si vous avez envie de manger un pain au chocolat, s'il y en a qui vous dit chocolatine, on va pas rentrer dans le débat, c'est pas le sujet. Non, mais il faut déjà avoir l'idée de se dire, tiens, je vais manger un pain au chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est la même chose, et je pense que c'est le rôle de la littérature, de l'art, du cinéma. Le problème étant le suivant. On ne peut pas aller attendre. En fait, la littérature écologiste aurait dû prendre un essor bien plus fort il y a 50-60 ans. Maintenant, les solutions sont les solutions politiques. Et donc, je vais pas en inventer 136. C'est ce que font, par exemple, les mouvements de désobéissance civile. Et malheureusement, le fait que ça n'aille pas assez vite, moi, ça me fait un petit peu peur, parce que non seulement parce qu'il va bien falloir réagir plus vite, mais ça veut dire qu'il va y avoir une montée des oppositions. Pour l'instant, c'est dans la non-violence. Je vous cache pas que c'est un peu ma réflexion de cette semaine, de me dire, est-ce que ça va continuer dans la non-violence, ou est-ce qu'il y a un moment, je parlais une fois à l'antenne du bouquin Impact d'Olivier Norek, qui transforme Greenpeace en Green War. Alors c'est de la fiction, mais en disant, est-ce qu'au bout d'un moment, les écologistes vont pas devoir aller plus loin? Donc moi, c'est pas ce que je souhaite, mais est-ce qu'à un moment, on va pas en être obligé, quoi? C'est une question ouverte.
On a Francine qui patiente depuis de nombreuses minutes. Je suis désolée, Francine, mais vous l'entendez, il y a du monde ce matin. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute et je vous laisse couper votre radio derrière. Super. C'est à vous.
Oui, alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que le problème qui est traité aujourd'hui commence aussi par la façon dont on parle, et entre autres dans les médias, aussi comme le vôtre, où le verbe « consommer » en a remplacé beaucoup d'autres. On ne mange plus, on ne boit plus, on ne s'habille plus, on consomme. On n'utilise plus tel ou tel objet, on le consomme. On n'écoute plus de la musique, on la consomme. On ne regarde plus un film, une série télé, on les consomme, etc., etc. Ce qui est d'ailleurs souvent un non-sens, puisque l'étymologie, c'est « consumere », qui veut dire « consumer ». Et donc, un film, on peut le regarder 1000 fois, une musique, on peut l'écouter 100 000 fois, C.F. Mozart et d'autres. Je suis désolée, ils sont pas consumés, ils sont toujours là. Donc, de plus, au-delà de cette maltraitance de la langue, je trouve que c'est une forme d'injonction déguisée à consommer. Il y a là-dedans quelque chose de manipulatoire dans cette façon de réduire les gens à n'être quasi que des consommateurs, et ce qui n'est pas sans incidence sur l'état psychique de beaucoup de personnes dans ce monde, je pense. D'autant que, selon les pubs, la question de l'être est tout le temps rabattue sur celle de l'avoir. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire et ce qui m'est venu, mais je n'arrive pas à retrouver l'auteur ni la formulation exacte de quelqu'un qui a dit « La seule patrie que l'on habite réellement, c'est la langue, sa langue ».
Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Francine, d'être venue à l'antenne pour nous dire tout ça, pour nous parler du verbe consommer qu'on utilise beaucoup en France. Bah, tiens, je vous fais réagir, Anne Kerlio, pour une fois.
Oui, parce qu'en fait, moi, je buvais du petit lait en écoutant Francine. Je pense que je vais, Francine, merci beaucoup, pour ce rappel à l'ordre salutaire, qui rejoint, je pense, en fait, nos préoccupations. C'est juste que on est pris, nous aussi, les journalistes, dans un système. On est comme les hamsters dans la roue, parfois. Et on a du mal à sortir des rails, des habitudes. Mais, je vais, découper votre témoignage et en particulier ce que vous dites autour de ce mot consommer, et on va s'en nourrir, nous les journalistes des rédactions d'RCF, parce que on fait vraiment ce travail là en tout cas, on a envie de le faire. Le problème, c'est parfois de dégager du temps et de vraiment prendre le temps de la réflexion, mais autour de cette question du langage et autour de nos manières de présenter le monde, pour vraiment avoir une proposer aux auditeurs et aux auditrices une lecture du monde et un questionnement aussi parfois qui soit à la hauteur de ces enjeux écologiques. Et évidemment que ça passe par les mots, et évidemment que je suis mille fois d'accord avec vous sur ce mot consommation qui prend une place démesurée et totalement inadaptée aux enjeux.
Merci beaucoup, Francine, pour votre témoignage à l'antenne. On n'habite pas un pays, on habite une langue, une patrie, c'est cela et rien d'autre. Vous savez qui c'est ? Émile Michel Cioran, dans Aveu et Anathème. Merci à Catherine qui m'a soufflé la réponse. Voilà, au moins on a retrouvé l'auteur. Adrien Louandre, sur cette question de la consommation, en tout cas de ce verbe consommer qu'on utilise.
Eh ben, pareil, hein, je rejoins parfaitement ce que vient de dire Anne. Je pensais, en vous écoutant, un ouvrage très connu, mais qui est quand même la base, de 1984 de George Orwell, où justement le principe du système dictatorial qui est mis en place dans ce roman, qui est aussi une fiction, mais malheureusement qu'il est de moins en moins, c'est de consommer exactement la langue et de nous dire petit à petit, même les opposants eux-mêmes ne peuvent plus utiliser leur langue, puisque beaucoup de mots sont interdits, et plus la censure augmente, moins on peut s'exprimer, et moins on peut s'exprimer, moins on peut justement, on en revient encore au sujet de tout à l'heure, élaborer une pensée. Si vous n'avez pas la maîtrise du conditionnel futur, vous ne pouvez pas élaborer une utopie, par exemple. Donc effectivement, et là, ça nous rapporte encore sur énormément d'autres questions. Anne parlait à juste titre de la formation des journalistes aussi, mais ça nous renvoie même à des questions très fondamentales sur l'école, sur l'apprentissage du français à l'école, sur la nécessité des savoirs, mais aussi des savoir-être. Enfin, on pourrait partir dans énormément de choses différentes. Donc, mais c'est intéressant, ça montre bien, et encore une fois, le pape François a raison, comment tout est lié et comment on parle d'écologie depuis ce matin. Et on ne parle on parle ici beaucoup de littérature.
Estella Torres, cette question des mots, elle est importante pour vous aussi, et autour du mot consommation, par exemple.
Ouais, au début, quand j'ai proposé, que je faisais les propositions, j'ai dit revoir notre mode de consommation, parce que justement l'impact de ce mot fait que le vivant devient une marchandise, un objet. Et même les êtres humains, du coup, c'est vraiment que ça a un impact sur tout. Et c'est vrai que c'est clé pour repenser l'avenir ou un monde, un autre monde.
Libre me voilà, c'est ma voix. Ça ne changera pas. Oui, fais bien attention à toi. contre moi. J'avais peur avant. Je parlais tout bas. J'étais jamais devant. Oh non. Aujourd'hui j'ai bien changé, crois-moi. Fais bien attention à toi.
Le nouveau single de la chanteuse belge Angèle sur RCF Libre.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo.
Émission un peu spéciale ce matin de 2 heures où on vous propose de faire des plans sur la comète, d'inventer le monde de demain avec nos nombreux invités qui nous rejoignent tout au long de l'émission. Et puis également avec Adrien Louande qui est notre fil rouge jusqu'à 11h. Et également avec vous toutes et tous au 04 72 38 20 23 où nous attend Marie-Françoise. Bonjour Marie-Françoise.
Oui, bonjour à tous.
Bon, je vous écoute. Télé.
Donc, écoutez, attendez, parce qu'il faut que j'ouvre la porte à quelqu'un.
Ah.
Mais ça prendra pas longtemps, c'est une personne que j'attendais.
Ouais,
c'est
pas bon, Madou.
Ce matin, voilà. On vit toutes les joies du direct,
on
en fait.
Toutes les joies du direct.
Avec plein d'imprévus, voilà. Mais ça marche quand même.
Bon, alors voilà. J'habite Limoges et je pars demain matin pour Lyon au Dialogue en Humanité, que vous connaissez peut-être, qui ont lieu comme tous les ans depuis 20 ans dans le parc de la Tête d'Or et qui sont ouverts à tous. C'est gratuit. Et ça a été créé il y a 20 ans par mon ami d'enfance, Patrick Vivret. Il y a eu Stéphane Essel aussi, qui a été au début de la création. Edgar Morin, qui sera peut-être là. Il va fêter ses 101 ans. Et ça va durer 3 jours. C'est superbe. Et ça s'intitule « Faire humanité sur notre planète océan ». C'est le thème de cette année. Donc, ça va être le thème de l'eau. Voilà. Donc,
oui.
Vous pouvez trouver tout le programme en ligne sur Dialogue en Humanité 2022 et vous verrez qu'il y a plein de gens passionnants qui y viennent.
Et puis, je me permets de rebondir. Merci pour cette information qui peut intéresser les Lyonnais et puis d'autres, puisque vous venez de loin, vous-même, de Limoges. En fait, c'est aussi les Dialogues en Humanité pour y avoir assisté. Ça rejoint aussi quelque chose qu'on se dit depuis le début de l'émission autour des enjeux de démocratie liés à tout ça. Si je vous décris un peu ce qui se passe, ce sont ce qui s'appelle des agora, où des personnes se retrouvent. Vous parliez, Marie-Françoise, d'Edgar Morin, de Stéphane Essel. Effectivement, moi, je me souviens d'une agora avec Stéphane Essel, assis au même niveau que tout le monde, et chacun a la parole. Donc Stéphane Essel, que tout le monde connaît, qui avait une aura, une parole, et l'anonyme à ses côtés, dont la parole avait la même valeur. Et c'est aussi dans des lieux comme ça que se réinvente ce qu'on appelle un nouveau récit, une nouvelle manière de penser le monde. Et c'est des lieux intéressants pour, on parlait tout à l'heure de formation, d'information pour comprendre ces enjeux-là. Les Dialogues en Humanité sont un exemple à Lyon. Alors il y en a d'autres ailleurs, hein. N'hésitez pas à nous appeler peut-être pour nous dire dans d'autres endroits ce qui se passe, mais pour faire ça, pour s'informer, pour se former, et en plus dans une atmosphère où on réinvente un peu la manière d'être citoyen aussi et de faire société ensemble.
Adrien Louande, vous avez l'habitude comme ça de participer à des événements de ce genre ?
Ça peut m'arriver, effectivement. Mais là, en écoutant Anne, j'ai eu un petit bug sur le mot anonyme. Alors, Anne, en soi, je comprends très bien ce que vous voulez dire, vous avez raison. Mais, excusez-moi, c'est la minute cato. Mais de se dire que dans le... Non, mais n'empêche que c'est vrai. Je pense que dans le livre de Dieu, personne n'est anonyme. Et pourquoi je dis ça sur une radio comme RCF, c'est de se dire... des fois, dans l'engagement, on peut dire oh, « Ouais, bon, bah de toute façon, il y en a d'autres qui le font, puis moi, tu comprends, je vaux rien, je suis pas bon, puis je suis pas formé, puis j'ai plus... mon avis, de toute façon, mon avis, il vaut rien. » Et ça, je l'entends énormément. Mais en fait,
Non. Moi, je suis franchement, on s'en fiche de moi. Enfin, personne ne me connaît. Mais ma
un
vie,
petit peu. Bah,
non,
mais
c'est, non,
bah, un petit c'est peu, une star ici, Adrien.
Mais parce que c'est vous. Non, mais Anne est une vraie star. Mais... non. Mais je veux dire, chacun, la parole de chacun a la même valeur. C'est ça que je veux dire. De chacun et de chacune est vraiment aller dans ces espaces. L'agora, c'est depuis 2500 ans, c'est la base de la démocratie. Et encore une fois, on relie des sujets différents. Pour l'écologie, on a besoin de démocratie, donc allez dans ces espaces. Puis si Anne, vous y allez, puis vous avez un petit autographe d'Edgar Morin, je veux bien quand même, parce que c'est quand même...
Je ne sais pas si je vais y aller cette année, mais...
Ah. Et ben voilà. Merci encore Marie-Françoise pour votre appel au 04 72 38 20 23. Dans quelques minutes, on accueillera Thérèse qui voudrait nous parler de son petit-fils de 18 ans. Thérèse qu'on peut accueillir, tant qu'à faire, qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Thérèse.
Bonjour à tous. Je vous appelle là parce que j'ai entendu cette personne qui parlait, qui disait de rêver de l'avenir.
Oui.
Et moi, j'ai un de mes petits-fils qui, en plein Covid, hein, c'était en 2020, en août 2020, donc il avait 18 ans, et qui m'a écrit ce poème « Rêver de l'avenir ». Alors, je vais vous le dire. « Fermer les yeux, se reposer et s'évader. Être transporté par la beauté de l'instant. » Entendre ruisseler l'eau et siffler le vent. Sentir les odeurs, ressentir l'air frais d'été. S'imaginer vivre dans un grand monde en paix. S'envoler dans les cieux, observer notre terre, admirer la splendeur, l'étendue de la mer. Contempler les couleurs, leur magnifique aspect. Atterrir en douceur et savoir qui l'on est. Garder en mémoire ce que l'on a observé. Parcourir ses pensées, longuement réfléchies. Se poser des questions sur notre futur. Nous rêvons tous de vivre une belle aventure. À nous de le construire notre avenir. Et j'ai trouvé magnifique, j'en ai mis larmes aux yeux.
Ah ouais, à 18 ans
quand j'ai lu, voilà, mais c'est un poète, il m'écrit des poèmes depuis tout petit. Et là, j'ai voulu vous le partager, je ne sais pas si c'est bien
c'était,
dans le
si, thème. C'était très beau, Thérèse. Il s'appelle comment, votre petit-fils? Son prénom?
Comment
il s'appelle, votre petit-fils?
Étienne.
Ben
maintenant,
voilà.
Il aura 20 ans à la fin de l'année, voilà.
Et ben, bravo, Étienne.
Tout petit,
pour,
il m'écrit des poèmes, mais c'est... Et en plus, c'était en plein Covid, il m'en a fait un autre en même temps sur le coronavirus.
Oui. Eh ben, on va peut-être pas le lire.
une autre fois.
Je suis pas dans le thème.
Merci.
Et j'avais écrit en même temps, voilà, c'est...
Eh ben, c'était une bonne idée, en tout cas, Thérèse, de venir nous le lire à l'antenne, ce poème d'Étienne. Adrien Louante, ça vous avait rêvé également?
Ah, un petit peu, mais bah après j'ai l'habitude de rêver. Non, mais ce qui me fait du bien aussi, c'est ces jeunes qui laissent libre, enfin tous ces jeunes, bon Dieu, je m'extrais de la jeunesse, qui font libre cours à leur poésie, leur art, et quel que soit pour lesquels ils passent. Mais oui, non, on en revient au même sujet d'habitude, on a besoin de rêver tout ça, et RCF, c'est quand même une radio qui le permet, et avec un beau petit esprit familial, donc c'est tout chouette.
Et ben voilà, pour réagir à ce beau poème d'Étienne. Vous êtes sur RCF, il est 10h40, on continue cette émission spéciale jusqu'à 11h.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo.
Et on accueille Anne, notre dernière invitée de cette matinée.
Oui, bonjour Françoise Vimeux.
Bonjour.
Alors, vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous travaillez au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement qui est situé sur le plateau de Saclay, au sud-ouest de Paris, et au laboratoire hydrosciences à Montpellier. Vous êtes venue, vous aussi, ce matin avec une proposition pour inventer un monde plus adapté aux défis du moment, et en particulier aux défis climatiques qui est votre objet quotidien.
Oui, alors en fait, moi, ma proposition hein, en tant que scientifique sur les thématiques du climat, elle va dans le sens où on peut diffuser davantage les connaissances, nos connaissances en fait, hein, que l'on construit pas après pas, et d'avoir davantage de médiateurs scientifiques auprès des chercheurs dans les laboratoires de recherche hein, pour nous accompagner en fait dans cette diffusion des connaissances et surtout favoriser l'échange et le dialogue direct avec les publics, quel que soit le public.
Le constat, en fait, dont ça part, ça, c'est que vous êtes de plus en plus sollicités, vous, les scientifiques, pour par les médias, mais aussi par des tas de lieux, pour venir parler du fruit de votre recherche sur le climat.
Oui, effectivement, on est énormément sollicité. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas répondre à toutes les sollicitations, malheureusement. Donc, il y a vraiment de la place pour que des médiateurs scientifiques viennent nous aider, nous accompagner. Ensuite, tous les chercheurs ne font pas, cette communication. Hein, ça prend, ça demande une certaine dextérité, puis une certaine envie aussi. Et puis, de mon expérience, on peut trouver énormément d'informations hein, sur le climat, sur de très bons sites hein, internet. On peut citer le site de Bon Pote, hein, le site de Météo France. Mais l'échange direct a vraiment un avantage qu'on peut d'abord expliquer, répondre aux questions, dénouer des confusions, balayer des fausses idées. Et pour moi, ça, c'est vraiment important de mettre dans les mains de chacun en fait l'état de nos connaissances pour éclairer en fait des décisions.
Comment vous, vous avez fait le choix finalement, puisque c'est ça, de répondre positivement à ces sollicitations qui arrivaient de plus en plus nombreuses, parce que effectivement, on pense pas d'emblée la mission du chercheur comme étant de dédier énormément de temps à la communication.
Oui, alors moi encore une fois, et je suis pas la seule, hein, un grand nombre de mes collègues ont la même attitude, c'est que le climat, c'est un enjeu pour les années, les décennies à venir. Ça demande des choix de société, des choix politiques, et notre rôle est d'éclairer au mieux, le grand public, de leur expliquer quels sont les enjeux, de leur expliquer l'état de nos connaissances, ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, vers où nous allons, suivant les choix que nous ferons. Et dans l'échange avec le public, il y a aussi pour nous un retour qui est particulièrement intéressant. On voit quelquefois des connaissances que l'on va donner qui nous semblent absolument évidentes, et puis finalement on s'aperçoit que c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas scientifique ou quelqu'un qui n'est pas spécialiste de s'en emparer et de comprendre ce que ça signifie réellement.
Finalement, vous diriez que c'est plutôt une chance d'avoir eu à faire ce saut-là vers beaucoup plus de vulgarisation, de communication, ou c'est quand même assez contraignant au final ?
Je dirais les deux. Alors, il y a un côté contraignant parce que forcément, ça demande une préparation, ça demande du temps. Le chercheur n'a pas vocation à passer 100% de son temps de recherche, de travail à réaliser cette communication. Mais d'un autre côté, il me semble que c'est un de nos devoirs, entre guillemets. Et en ce qui me concerne personnellement, j'ai trouvé ça très enrichissant. Et puis finalement, quelquefois, on nous pose des questions qui nous font vraiment réfléchir. Et je dois avouer que sur ces dernières années, il m'est arrivé qu'on me pose peut-être une ou deux fois des questions. Et en rentrant après chez moi ou dans mon laboratoire, je me suis dit, ah bah oui, peut-être qu'on n'a pas suffisamment regardé ça, on n'a pas suffisamment décortiqué.
Vous avez de questions précises ou vous l'avez pas là?
Alors c'est... Oui, précise, non, mais c'est généralement des questions qui nous sont données par des publics avertis. Donc ça peut être un autre public scientifique qui ne travaille pas dans le domaine du climat, mais qui a un background scientifique. Ça peut être aussi des fois, des publics associatifs ou de retraités qui ont beaucoup fouillé et qui vont poser une question et finalement on s'est dit, ben tiens, c'est vrai, on n'a pas réfléchi à cet aspect-là. Et donc moi je trouve qu'il y a un côté très enrichissant dans le dialogue.
Mais vous ne pouvez pas faire face à toutes les sollicitations, d'où cette proposition de médiateur scientifique. Alors, est-ce que vous pouvez en dire plus? Son lieu sa base, pas son lieu de travail puisqu'il irait vulgariser un peu partout, mais il serait rattaché, il serait autonome, il serait rattaché à votre labo. Enfin, comment vous imaginez ça?
Oui, alors pour moi, c'est important que le médiateur scientifique soit dans le laboratoire. Aujourd'hui, le métier de médiateur scientifique, il existe. Généralement, on les trouve dans les musées, on va les trouver dans les espaces culturels qui ont une vocation à la diffusion scientifique. Ils peuvent faire partie aussi de cellules de communication dans des organismes de recherche publique ou même privés. Mais moi, je pense que ça serait important d'avoir ces profils et ses compétences au sein de nos laboratoires, tout simplement pour qu'on puisse avoir des échanges au quotidien qui ne soient pas contraints par le temps d'une réunion, un agenda. C'est toujours difficile de fixer tout un tas de choses à l'avance. Et donc, dans les grands laboratoires, je pense aussi que cette personne aurait vraiment du travail, du pain sur la planche, pour s'imprégner aussi des recherches qui sont en cours et aussi faire passer le message que nous ne savons pas tout. C'est-à-dire qu'il y a des recherches en cours, il y a des incertitudes, on se pose encore des questions sur certains aspects, et puis aller ensuite faire de la pédagogie, de la simplification, de la vulgarisation, nous accompagner aussi des fois envers certains publics qui sont quelquefois peut-être plus difficiles pour nous à aborder, et essayer de faire en sorte que finalement nous soyons plus nombreux décloisonner les laboratoires de recherche envers, je dirais, monsieur et madame tout le monde.
Ce que vous dites sur « on ne sait pas tout » me fait penser à un autre scientifique qui est souvent venu dans « Je pense donc j'agis » qui ne pouvait pas être aujourd'hui avec nous et qui travaille lui sur la biodiversité, c'est Philippe Grandcola de l'ISIEB. Et je me souviens l'entendre dire à l'antenne et puis avoir lu aussi ailleurs que l'essentiel, et là on va rejoindre Estella Torres et la place des animaux, l'essentiel des espèces animales et végétales surtout ne nous sont pas encore connues aujourd'hui. Et quand on... Enfin, ça, c'est un continent, Estella, se dire, notamment du côté des insectes, ce monde, finalement, on le connaît très peu. Et si on le maltraite, ben, on ne pourra pas découvrir ce qu'il recèle, en fait.
En effet, oui, c'est ça. Et oui, on ne connaît pas tout et on ne connaîtrait pas tout si on continue avec... cet élan des destructions.
Adrien Louandre, vous avez écouté avec attention ce que nous disait Françoise Vimieux avec ses propositions. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ?
J'ai au moins 4 choses qui me sont venues, alors j'espère pas tout oublier. Non, voilà, c'est moi qui ai bu du petit lait, parce qu'à mes heures perdues, je suis aussi un débutant en histoire du climat, à s'accler un peu avec Grégory Kenney, qui est un homme remarquable. Et je dis ça parce que ce soit Grégory Kenney ou Leroy Ladurie, par exemple, sont des gens qui ont écrit, et franchement, ça se lit très très bien, des histoires du climat notamment, et à quoi ça sert l'histoire environnementale, etc. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est extrêmement important dans la lutte contre le climato-scepticisme de gens comme François Gervais qui n'ont absolument aucune rigueur scientifique. Et quand on voit ce que dit votre intervenante, voilà, on voit des choses. Enfin, voilà, là, on a de la rigueur scientifique, là, ça fait plaisir.
Mais et puis, en même temps, Adrien, vous parlez de lire des choses. Et en fait, Françoise Vimeux insistait aussi sur l'importance de rencontrer les publics pour échanger avec eux.
Ah oui. Alors, exactement, j'en viens, c'était mon deuxième point. Là, on a eu, pas plus tard que la semaine dernière aussi, énormément de scientifiques qui sont venus devant l'Assemblée nationale. Alors, presque aucun député de droite n'est allé, mais enfin bon, c'est dommage, mais enfin bon.
Il y en a eu 5, je crois.
Moi, j'avais 2. Enfin, 3. Ah non, c'était 3 divers droites, un RN et un LR. Voilà. Voilà, mais bon. Voilà. Rencontrer des climatologues. Il y a aussi énormément de. Ils ont publié d'ailleurs des documents. On mettra sur RCF si vous voulez. Des documents sur la base de tout ce qu'il faudrait savoir aujourd'hui. Il y a un bouquin du CNRS qui est sorti en novembre, il me semble. Tout ce qu'il faut savoir sur le climat ou presque. Et en même temps, j'ai beaucoup aimé dans votre intervenante cette idée de dire, bah oui, mais nous aussi, en tant que chercheurs, on a une rigueur scientifique à dire, bah, on ne sait pas tout. Ça, c'est très important. Et dernier point, on parlait de rêver un petit peu au début. Eh ben, moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi et beaucoup de jeunes qui disent, je rêve d'être climatologue. Parce que, justement, parce qu'on veut aller enrichir ce laboratoire, parce qu'on sent que c'est un boulot qui, s'il est extrêmement difficile, et j'entends énormément de climatologues dire, bah, nous, on est en dépression parce que personne nous écoute, je sais pas si votre intervenant voudra réagir, mais, bah, il y a beaucoup de jeunes que ça inspire, et voilà, les scientifiques inspirent, et ça, c'est pas une raison d'espérer, c'est quand même vachement sympa.
Françoise Vimeux, vous le saviez, vous avez eu l'occasion de toucher ça du doigt aussi?
Le côté de éco-anxiété, vous voulez dire?
Non, le fait que des jeunes disent, moi, je veux devenir climatologue.
Oui, alors effectivement, nos thématiques attirent beaucoup de jeunes scientifiques. Après, je pense que c'est important pour eux de venir en stage et de bien comprendre ce que c'est que le travail de recherche en climatologie. Quelquefois, on a des jeunes qui finalement sont un peu déçus parce que nous faisons au quotidien un travail scientifique avec une méthode rigoureuse. Nous avons certains ont des compétences en physique, d'autres en mathématiques, d'autres en chimie, et c'est très interdisciplinaire. Et voilà, nous faisons en fait l'idée c'est de sortir des résultats scientifiques ensemble, contraints par la méthode scientifique. Et certains viennent des fois avec un côté militantisme qui finalement n'a pas forcément sa place dans les laboratoires de recherche. Et donc je pense que les jeunes doivent vraiment venir pour voir ce que c'est que le travail de scientifique sur la thématique du climat.
Je crois d'ailleurs que votre réflexion autour des médiateurs scientifiques était aussi conditionnée par cette idée que chacun a sa place et que pour vous, par exemple, on a eu l'occasion d'échanger un peu pour préparer l'émission, vous me disiez que le fait, par exemple, que des journalistes soient invités comme experts scientifiques, quelque part, vous dérangeait.
Oui, alors en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut bien différencier le scientifique, le médiateur scientifique dont c'est la compétence d'intégrer l'ensemble des connaissances et de les rediffuser de manière pédagogique, et puis le journaliste scientifique qui lui est dans l'actualité. Il n'a pas forcément, je pense, un rôle, de scientifique à la base. Il peut avoir une compétence scientifique, mais lui, il suit l'actualité. Il est là pour finalement écouter l'ensemble des parties. Et donc pour moi, c'est un peu différent. Et chaque parole est un peu différente. Mais est nécessaire, bien sûr, pour diffuser l'actualité.
Alors, votre proposition, elle vient à un moment où finalement, on sent bien que d'un côté, le monde étudiant, on le voit avec les étudiants d'AgroParisTech, de Sciences Po et d'autres encore, contester la formation qui leur est donnée aujourd'hui. On le voit bien aussi avec tout ce qui se cherche du côté des instituts de transition ou autres vers des reconversions professionnelles en phase avec les enjeux écologiques. Il y a des nouveaux métiers qui s'inventent. Celui que vous venez de nommer ce matin, qui existe déjà, mais qui, on sent bien que vous souhaiteriez faire évoluer. Si des jeunes là nous écoutent ou des parents qui ont des jeunes qui sont en recherche d'orientation se disent tiens, ça pourrait intéresser mon enfant, c'est quoi les études qu'il faudrait faire et puis comment après ce métier-là peut se configurer très concrètement?
Alors sur les études pour le médiateur scientifique, c'est quelqu'un qui à la base a des compétences scientifiques, mais qui a aussi des compétences de communication. Donc il existe des filières universitaires qui mêlent à la fois le savoir scientifique et la compétence de diffusion, de recherche d'informations. C'est je crois un métier qui demande aussi d'être très ouvert parce que on n'est pas forcément spécialiste d'une thématique, d'un sujet. Il faut qu'on soit spécialiste finalement du climat dans son ensemble, sachant que le système climatique est extrêmement complexe. Et puis là, vous parliez des jeunes diplômés qui ont fait vraiment des grandes études au niveau des écoles. Moi, je pense que ces jeunes ont des formations d'un niveau très élevé, hein, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde, et qu'ils vont pouvoir finalement participer à tout ce qu'on attend pour surmonter cet enjeu climatique, que ce soit dans les options d'adaptation, que ce soit dans les options de diminution des effets de gaz à effet de serre. Et donc finalement, moi, ça me ravit de voir tous ces jeunes sensibilisés avec un background scientifique vraiment très important et très performant.
Adrien Louandre, vous voulez réagir ?
Oui, sur la fin de la chronique,
l'intervention.
L'intervention. J'ai l'habitude de faire des chroniques, du coup, je suis sur l'intervention. Le manifeste étudiant pour un réveil écologique, c'est 30 000 jeunes, hein, quand même.
Donc, et ça date de plusieurs années déjà.
Et ça date de plusieurs années. Donc, je veux dire, c'est un mouvement, vraiment un mouvement de fond. J'irais même jusqu'à dire que ça commence à changer la conception même du monde du travail. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de sens, enfin voilà. Et j'ai un copain là qui a fait la même chose à Polytechnique pas plus tard que la semaine dernière. Donc voilà. Simplement, oui, sur l'intervention, il y a une nuance à trouver aussi. Sur à la fois, le scientifique doit être le plus rigoureux possible et le plus neutre possible pour justement donner la légitimité de son travail de recherche, qui n'est pas partisan. Et c'est vrai qu'en même temps, dans la démarche pédagogique, il y a quand même, entre guillemets, c'est ce que vous disiez, chère madame, une dimension non militante. Enfin, moi, je dirais peut-être militante. C'est peut-être le débat, si on avait le temps, qu'on pourrait avoir. Mais il y a une forme effectivement de responsabilité du chercheur. Et dans tout ça, je voudrais mentionner un point pardon qu'on a oublié, qui est l'éducation populaire. Moi qui viens du MRJC et François qui est intervenant dans la première heure parler des scouts de France, bien sûr, ce sont aussi des espaces extrêmement importants et pas juste à l'école d'éducation nationale pour sensibiliser à ces questions d'écologie. Et pour le coup, nous, on a aussi le savoir-faire pédagogique pour le transmettre.
Ou l'association Cité des Chances que représentait Lorraine Lolo dans la première heure, qui est aussi du côté de l'éducation populaire.
Ouais. Il nous reste quelques secondes hein, avant la fin de cette émission, ça passe très très vite. Enfin, remarque qu'on a passé 2 heures quand même.
Et pourtant, il nous manquait 2 invités qui avaient le Covid.
Bah, comme quoi, voilà, on s'en est bien sortis. Je vous lis un message de Bernadette, alors ça ne demande pas forcément une réaction, mais je voulais vous le dire parce qu'elle l'a laissé dans le groupe Facebook, je pense, donc j'agis. Vive l'écologie humaine et la reconnaissance des valeurs simples, quitter le profit et voir l'essentiel sans achat automatique. Notre cher pape François fourmille d'idées à ce niveau-là. Se contenter de peu est toute une philosophie, une spiritualité du quotidien. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Ça vient aussi un peu terminer l'émission. J'aurai encore beaucoup de messages à vous lire, mais je pense qu'on n'aura pas le temps.
Merci à tous les auditeurs parce que ça montre vraiment combien on compte sur eux aussi pour être contributeurs. Alors, comme le disait Françoise Vimeux, chacun a sa place. Il y a des experts, des scientifiques avec un savoir sûr. Il y a nous, je me mets dedans, les citoyens qui cherchons, aidés par tout ce savoir, cette connaissance qui nous est transmise. Et nous, ici, dans cette émission, on essaye de lier et de faire vivre tout ça au nom de ce fameux tout est lié qui nous est cher.
Et on pense et on agit.
Voilà, on essaye.
Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette émission.
Merci beaucoup Françoise Vimeux d'être venue nous éclairer ce matin.
Merci.
Merci Estella Torres d'être venue aussi nous parler des animaux.
Merci
et
à
puis,
vous.
Merci à toutes celles et ceux.
Et Adrien Louandre, bien sûr.
Et Adrien, évidemment. Et merci pour toutes les chroniques aussi, Adrien, de cette année.
Merci à vous, cher ami.
Et merci d'avoir été avec nous en direct depuis la gare. Vous allez reprendre le train, là, Adrien ?
Non, même pas.
Ah bon ? Très bien. Merci beaucoup, alors, d'avoir été avec nous. Passez toutes et tous un très bel été. Merci Anne Carléo pour toutes ces belles émissions également tout au long de l'année.
On se retrouvera à la rentrée le mardi.
Avec plaisir. La saison 3, je pense, donc j'agis, ça passe vite. Merci Anne. Merci à toute l'équipe, bien sûr, qui a permis la réalisation de cette émission. Je pense à Nicolas de Grenoble, de Pierre-Henri, Antoine, Catherine. Merci à toutes et tous. On va se retrouver demain pour la toute dernière émission, je pense, donc j'agis, de la saison. Rassurez-vous, de la saison, j'ai bien dit de la saison. On reviendra avec le Presse Club en compagnie d'Étienne Pépin. Et puis à 10h, on se rendra au jardin avec Fred, notre jardinier de terre et humanisme. Très belle journée à toutes et tous. Je vous rappelle qu'on peut se retrouver dans le groupe Je pense, donc j'agis sur Facebook.